Bonjour, bah, en fait je vous ai déjà tous vus, donc je vous redis bonjour. Donc, je m'appelle Jonathan Berle, je suis un des anciens de l'église mennonite de Colmar-Egersheim, comme ça a été dit. Et je vous salue également au nom de cette église sœur donc de Colmar-Egersheim. Voilà, en étant un des responsables, et puis je leur ai dit hier aux autres responsables que je vous saluerai, et on est content de pouvoir échanger entre frères et sœurs, surtout quand on est d'une même famille. Mon second métier, c'est responsable de la cellule Habitat et Qualité de l'air intérieur à l'Agence régionale de santé du Haut-Rhin. Alors, je vous ai épargné encore quelques détails parce qu'ils aiment bien les noms assez longs dans la fonction publique, même si je ne suis pas fonctionnaire. Grosso modo, aujourd'hui, mon métier, c'est de lutter contre l'habitat indigne. Et dans les Vosges, je ne vous ai pas épargné par ça. Et bien, dans le Haut-Rhin non plus. Donc, ça fait du boulot. Et avant cette reconversion professionnelle, j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans l'électronique. Je vais y revenir un petit peu plus tard, en vous donnant un petit témoignage. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit quiz musical. Est-ce que vous aimez les quiz? Oui. Un petit quiz musical pour démarrer. Alors. Est-ce que ça va? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Pas tellement?
He rolls up his sleeves, he just put on a rig. Our God is an awesome God.
Our God is an awesome God.
This is
an awesome
God.
Our God is an awesome God. He reigns
from heaven on earth with wind.
Our God is an awesome God. Our God is an awesome God.
C'est le chant Our God, Awesome God, ou Our God is an Awesome God en anglais. En français, car Dieu est un Dieu puissant. Ça vous dit quelque chose, c'est un chant des gemmes. Numéro 385. On n'était pas loin avant, vous avez vu le 387 qu'on a chanté. Alors, je ne suis pas sûr de la source, mais d'après Wikipédia, ce chant a été composé par Rich Mullins. Peut-être que vous connaissez, en tout cas c'est un conducteur de louanges assez célèbre et il est décédé en 97. Et dans Les Jeunes Éternels, notamment, il y a pas mal de chants de lui qui ont été repris par d'autres artistes ou par d'autres groupes chrétiens. Ce chant, il a été enregistré la première fois en 1988 et il est très vite devenu un tube, pour les chrétiens en tout cas. Le titre vient d'une expression biblique qu'on trouve dans Néhémie ou au psaume 47, mais il est question de la puissance de Dieu dans toute la Bible. Alors, on va écouter une... Voilà. Ça, c'est une chorale qui a chanté ce chant et qui a été dirigée par Rich Mullins. Un peu plus classique, peut-être que vous connaissez.
Our God is an awesome God, he reigns. From heaven above, we breathe on love and love.
Alors, si vous préférez, il y a la version R&B. Quelqu'un de rap ici? Je sais que mon fils aime bien la main. Voilà, c'est pour toi celle-là. Il y a la version sans parole, juste instrumentale, propice à la méditation. Voilà, c'est peut-être ça vous rejoint plus. Hein. Il y a la version française, bien sûr. Il y a la version allemande. Voilà. Si jamais tu parles allemand. Il y a la version diva. Alors si vous aimez plutôt le jazz, il y a la version jazz aussi. Il y en a pour tout le monde. Hein. Il y a la version celtique, j'aime bien. Voilà, Saint-Patrick, c'est... Il peu plus fun, il y a la version pour le reggae. On est dans tous les styles. Mon fils qui fait la batterie là-bas, il aime bien. Et je pense que cette version-là, c'est sa préférée, c'est aussi la mienne. Attention les oreilles sensibles, s'abstenir. Voilà, j'épargne vos oreilles pour la suite, mais à un moment ils le font instrumental et tout. Ce dernier groupe s'appelle The Insiders. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est un groupe chrétien de ska punk, formé en 1996. Il n'y a pas beaucoup de groupes chrétiens qui font du ska, donc ils sont plutôt très connus dans ce genre musical chez les chrétiens. En tout cas, moi je les ai connus. Vous l'avez sans doute remarqué, mais les paroles et le chant, à chaque fois c'était la même chose. C'était toujours les mêmes paroles. Elles disent toutes la même chose, mais avec des formes différentes. Comme on l'a dit avant, nous aussi on le chante des fois. En tout cas, c'est un chant qui est parfois pris à l'église, le J'aime 385. Mais nous, on chante que le refrain dans ce J'aime l'Éternel. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Je ne pense pas qu'on ne peut pas être d'accord avec ces paroles. On est tous d'accord que Dieu est un Dieu puissant, qu'il règne avec sagesse et amour. Mais je vais vous lire la traduction des strophes qui sont moins connues en français. Je ne vais pas les dire en anglais, je vais du coup juste lire la version française. Quand il retrousse ses manches, il n'est pas du genre à se la péter. Notre Dieu est un Dieu formidable. La foudre réside dans ses pas et la lumière dans son poing. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Eh bien, le Seigneur ne rigolait pas quand il nous a jetés du jardin d'Éden. Ce n'est pas pour rien qu'il a versé son sang. Son retour se fait vraiment sentir. Alors tu ferais bien de croire que notre Dieu est un Dieu étonnant. Notre Dieu est un Dieu formidable. Il règne des cieux là-haut. Avec sagesse, puissance et amour, notre Dieu est un Dieu formidable. Deuxième strophe. Et quand le ciel n'avait aucune étoile dans le vide de la nuit, notre Dieu est un Dieu stupéfiant. Il usa de sa parole dans l'obscurité et créa la lumière. Notre Dieu est un Dieu impressionnant. Il déversa son jugement et sa colère sur Sodome, mais il nous a donné sa grâce et sa miséricorde à la croix. Je garde l'espoir que nous n'ayons pas trop vite oublié que notre Dieu est un Dieu formidable. Formidable, stupéfiant, tout ça c'est awesome, le mot awesome. Les strophes sont déjà un peu plus dures à entendre, hein. Mais je les trouve assez justes. Dieu y est décrit comme un Dieu plein d'amour et de sagesse, mais aussi un Dieu puissant et juste. Et vu que toi, tu n'es pas juste, tu ferais bien de réfléchir, de te repentir, de ne pas oublier que Dieu est un Dieu puissant, formidable, étonnant. C'est un chant de louange qui place Dieu au centre, qui le reconnaît comme celui qui règne et qui me remet à ma place à moi. On va y revenir. Mon épouse Caroline et moi-même, nous animons régulièrement les temps de louange à l'église, tout comme d'autres serviteurs. Et nous avons deux rencontres par an qui rassemblent tous les conducteurs de louanges. Nous nous retrouvons pour parler de ces moments importants du culte que nous conduisons. Et c'est l'occasion de nous rappeler pourquoi nous faisons ce service, dans quel but. Et c'est l'occasion d'entendre ce qui va bien, ce qui est très bien, ce qui est amélioré dans le fond et la forme. Certaines phrases lors de ces réunions m'avaient interpellé. Je l'ai trouvée pertinente et puis je voulais savoir un peu plus ce qu'en disait la Bible. Et donc c'est ce que je vous partage ce matin suite à ces réflexions. Parce que je me suis rendu compte que ça ne concerne pas que les conducteurs de louanges, mais chaque chrétien. Petit rappel sur ce qu'est la louange, de mon point de vue en tout cas. L'homme est créé pour louer Dieu. L'homme est créé pour louer Dieu. Éphésiens 1, verset 12. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Mais avant cela, c'est Dieu le premier qui loue l'homme. Les tout premiers mots sur l'homme qui vient d'être créé sont pour le louer, ainsi que tout ce qu'il avait créé. Genèse 1, verset 31, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. C'est une belle louange. Dieu est heureux devant sa création et devant l'homme né de sa parole. À la louange, il ajoute même la bénédiction pour l'avenir de l'homme par une promesse de fécondité. Et Dieu continue sa louange de l'homme tout au long de l'histoire d'Israël. Par exemple, David, 1 Samuel 13, verset 14, « Dieu a trouvé en David un homme selon son cœur. » Ou Job 1, verset 8, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur terre. » Belle louange de Dieu envers un homme. Et dans le Nouveau Testament, Jésus loue Jean-Baptiste, Luc 7, verset 26 à 28, « Plus qu'un prophète, de plus grand, il n'en existe pas parmi les hommes. » Belle louange. Jésus admire et loue la pauvre veuve qui a mis deux petites pièces dans le tronc du temple. Elle a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. Marc 12, verset 41 à 44. Il appelle ses disciples pour leur partager sa louange. Jésus loue aussi Pierre. « Tu es heureux, Simon. » Matthieu 16, verset 17, etc., etc. Nous voyons donc que Dieu, notre Créateur, nous loue parfois les humains. Louer, ça vient, c'est du latin « laudare ». Louer quelqu'un, c'est vanter ses mérites. Admirer sa qualité. Décerner des éloges à quelqu'un. Manifester, exprimer son admiration, son estime, pour quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs. C'est faire l'éloge ou en faire l'éloge, reconnaître ou célébrer le mérite, rendre gloire. On est d'accord, ça n'a rien à voir avec louer une voiture. Ça c'est le latin « locare », juste. Louer une voiture, un appartement, rien à voir. J'ai d'ailleurs découvert que le verbe « louanger » existe en français. Je louange, tu louanges, il louange. Connaissez-vous ? Nous louangeons. Donc, louanger, c'est faire de nombreuses louanges, louer avec excès. Du coup, on peut appeler les conducteurs de louanges des louangeurs ou des louangeuses. Je ne sais pas si ça se fait chez vous. Chez nous, ça ne se faisait pas avant, mais maintenant, on le fait. Et ce sont des mots qui existent vraiment. D'ailleurs, on ne devrait pas limiter ce terme à ceux qui conduisent la louange, parce que chaque personne qui louange est un louangeur. Donc ce matin, vous êtes tous des louangeurs, vous avez... On a louangé ensemble, c'est trop bien. Bref, si nous en revenons à Dieu, nous avons vu que Dieu peut louer l'homme. Louer, c'est une manière pour Dieu d'être en relation avec l'homme. Et réciproquement, c'est une manière pour l'homme d'être en relation avec Dieu. La louange n'est pas à sens unique, mais réciproque. Dieu a créé l'homme à son image pour être son interlocuteur, son allié. Voilà dans la louange une première manière pour Dieu et l'homme de se lier réciproquement et de commencer à accomplir ce que Dieu a prévu pour sa création. Nous avons été créés pour louer Dieu, notre Sauveur. Je vous lis un extrait d'une parole du jour de Pop Gas. Je ne sais pas si vous connaissez les paroles du jour de Pop Gas. C'est une parole du jour, tous les jours. Il y en a une qui disait ça. On dit que la matière, quand on la décompose, contient des éléments qui émettent des sons. Quand les pharisiens ont voulu faire taire ceux qui louaient Dieu, c'est peut-être pour cela que Jésus a dit « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Luc 19, verset 40. La Bible parle des arbres qui louent en battant des mains, des océans et des montagnes qui exaltent Dieu. Toute la création est faite pour le louer. Si vous ne le louez pas, il y a une connexion avec Dieu qui ne se fait pas et un vide se crée que rien ne peut remplir. David a dit « Que ma prière monte devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Psaume 141, verset 2. Prière signifie ici « chant de louange » en hébreu. Le mot ne revient pas moins de 72 fois dans la Bible. La louange nous rapproche de Dieu. Quand nous parlons de la louange, il est bon de distinguer louange et action de grâce. D'après Pierre Gouet, les chemins de la louange diffèrent en Orient et en Occident. Pour remercier, nous les Occidentaux, nous restons souvent centrés sur le don reçu ou sur nous-mêmes. Je vous remercie pour ce cadeau magnifique. Je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apportée, etc. L'hébreu ignore complètement cette manière de remercier en mentionnant le cadeau reçu. C'est comme si la personne se retire de la scène pour pour centrer sa joie sur le donateur. Tu es merveilleux. Tu as un grand cœur. D'où la petite différence entre action de grâce et louange. Par l'action de grâce, je reste encore un peu fixé sur le don reçu. La louange, elle ne parle que du cadeau. Elle exalte Dieu. Et elle fait exulter en Dieu l'homme qui le loue. Exemple, la louange de Marie à Dieu, après qu'elle ait salué Élisabeth, Luc 1, versets 46 et 47. « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Là, c'est vraiment Dieu qui est placé au centre. Dans le chant car Dieu est un Dieu puissant, c'est aussi Dieu qui est adoré, loué, placé au centre. Alors attention, je ne dis pas que la louange est mieux que l'action de grâce. L'une va avec l'autre et les deux sont nécessaires à mon sens. Reconnaître ce qui est fait et honorer qui l'a fait. Et remercier pour ce que j'en retire et ce que cela a produit en moi. Tout ça, ça va ensemble. C'est différent mais complémentaire. L'expression « action de grâce » vient du mot hébreu « shelem » qui signifie « offrande de paix »,« récompense », »,« sacrifice pour alliance ou amitié », »,« sacrifice volontaire de remerciement ». Exode 20, verset 24, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Parfois, où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Cette expression qui, au fil du temps, a pris la seule signification de « remerciement » était, au départ, accompagnée d'une offrande. J'aimerais lire un texte intéressant de Jean-Pierre Sternberger. On évoque parfois l'opposition entre prière et action. Prier ne serait pas agir. Et pourtant, il existe parmi les nombreuses manières de prier un type de prière qui s'appelle action, l'action de grâce. L'action de grâce n'est pas tout à fait synonyme de louange. La louange chante Dieu pour ce qu'il est. C'est le chant des séraphins, ces êtres de feu que le prophète Élie dit avoir rencontrés dans le temple de Jérusalem. Jour et nuit, ils proclament « Saint, Saint, Saint et Yahvé ». Dieu est saint, il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ça, c'est une louange. L'action de grâce, c'est rendre grâce. Dire la grâce qui nous est faite. C'est la reconnaissance de l'action de Dieu pour le monde, pour nous, pour moi. Et cette reconnaissance elle-même est action. Si la louange dit Dieu pour ce qu'il est, l'action de grâce dit merci à Dieu et me met en relation avec le monde. Fin de citation. Par la louange, le chrétien s'attache à Dieu et pas au quantitatif ou au rentable auquel nous pouvons être attachés. Parfois, on est négatif. Je suis négatif et pessimiste. Je m'attarde aux événements du monde qui sont tellement désolants, mais sans être attentif aux traces lisibles de Dieu créateur et sauveur. Positivement, la louange nous met dans l'actualité quotidienne de Dieu. Elle est la manière constante, non seulement de penser du bien de Dieu, mais de le dire à Dieu et de le dire aux autres. L'homme peut faire des merveilles avec son esprit et ses mains. Mais souvent, il récupère la gloire de ses œuvres pour lui-même, au lieu de la rendre à Dieu. Je vous donne un pan de ma vie en exemple. Avant ma reconversion professionnelle, ma dernière société, c'était une société qui fabriquait des cartes et des câbles électroniques, et elle était en forte dynamique. Elle grandissait, il y avait des nouveaux clients, il y avait des marchés toujours plus gros, on a acheté des machines. Alors, c'était jusqu'à déménager dans un nouveau bâtiment, tout neuf, construit. J'étais tout seul au service commercial pendant ce temps-là et j'entendais parfois des mérites, des louanges de moi, de mon ancienne directrice ou des fournisseurs. Mais je savais très bien deux choses. La première, c'est que je ne pouvais rien faire tout seul parce qu'on était une équipe. Et si ça marchait, c'est parce qu'on était une équipe. Et même si je portais beaucoup moi-même sur les épaules, je ne pouvais rien faire sans Dieu. Sans les dons qu'il m'a donnés, que dalle, nada, rien faire. Et je me le rappelle souvent pour rester humble et à ma place. Sans lui, je ne suis rien et je ne fais rien. Dieu a loué des hommes, mais une bonne question à se poser, c'est est-ce qu'il pourrait me louer, moi? Est-ce qu'il peut dire de moi, tu es un homme, tu es une femme, selon mon cœur, comme il l'a dit David? Est-ce qu'il va m'appeler bon et fidèle serviteur? je sais pas vous, mais moi cette parabole de Matthieu 25, elle me fait beaucoup réfléchir. Et depuis de nombreuses années, elle me bouscule. Alors non pas pour compter le nombre de talents que j'ai reçus, hein, savoir si j'en ai 10, 5 ou 1, mais pour agir afin que Dieu m'appelle bon et fidèle serviteur à la fin. Comment est-ce qu'il va m'appeler ? Vous connaissez certainement les versets de l'Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 29 et suivants, sur la prédestination. On va lire même à partir du verset 28. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. » Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Moi, ce qui me frappe dans ces versets-là, c'est que malgré que Dieu connaît tout d'avance, tout ce que je vais faire, en bien ou en mal, ça ne change pas son choix de m'aimer. Ça veut pas dire que c'est pas grave si je commets un péché ou si je loupe une occasion d'être fidèle. Ça veut dire que son amour est bien plus immense que ce que je peux penser. Son amour est bien plus immense que ce que nous pouvons penser. Il sait certainement déjà s'il va m'appeler bon et fidèle serviteur à la fin de ma vie. Mais ça change pas les efforts que je dois faire. Mais je peux compter sur cet amour incroyable pour faire ces efforts en réponse. Je crois que la louange nous met en connexion avec Dieu parce qu'on le reconnaît lui comme parfait, comme souverain, comme sauveur et seigneur, et moi à ma place de créature qui a des choses à améliorer. Mais loué soit Dieu qui m'aime et qui me fait grâce. Et j'en viens à un point important et que j'ai à cœur de vous dire ce matin, la louange n'est pas nécessaire que le dimanche matin. Je crois qu'on a besoin de cette connexion tout le temps pour se rendre compte de notre place, de ce qu'on doit améliorer, et de louer Dieu qui est avec nous tout le temps, avec patience, bonté, bienveillance. Je cite un autre texte, une présentation du groupe de louanges de l'ACBM, Assemblée chrétienne de Belfort-Montbéliard. C'est un texte auquel j'adhère complètement aussi. La louange est un moyen d'expression et de reconnaissance envers Dieu. Notre adoration n'est qu'une réaction naturelle face à l'amour et à la bonté de notre Seigneur. À la CBM, la louange est un simple moment où chacun peut chercher la présence de Dieu et où nous célébrons ensemble un Dieu extraordinaire. Chaque fois que nous passons un temps dans l'adoration, nous ne pouvons en ressortir que meilleurs. La présence de Dieu est quelque chose qui nous touche, nous change, nous apaise et tellement plus encore. La louange peut prendre différentes formes. L'adoration dépasse la musique ou la danse. C'est le cœur qui compte pour Dieu. Nous tenons à créer une atmosphère où chacun peut venir tel qu'il est, utiliser ses propres dons et s'exprimer à sa façon. Il y a autant de moyens d'exprimer son amour envers Dieu qu'il y a de diversité dans la création. La musique n'est pas l'adoration en soi, mais l'un des divers supports d'expression. La danse, l'art, le chant ou toute autre forme de louange qui est propre à chacun sont les bienvenus. Nous voulons que chaque personne puisse vivre son moment avec Dieu librement. Dieu est intéressé par nous et veut que nous soyons nous-mêmes. C'est également pour cela que nous ne cherchons pas seulement à louer Dieu une heure le dimanche matin, mais de réellement créer une culture de louange, un style de vie où la foi, la joie et la reconnaissance font partie de notre quotidien. Nous sommes créés pour louer. La louange n'est pas seulement quelque chose que nous faisons, mais aussi que nous sommes. Nous voulons apporter une atmosphère de foi, de vie et d'espérance autour de nous. Je trouve ça génial comme vision pour une église. Je ne sais pas s'ils arrivent à le vivre, je ne suis jamais allé dans cette église-là. Mais ils en ont la volonté, et déjà ça, je trouve que c'est super. Je ne sais pas si vous avez cette volonté de vivre ça. La culture de louange. La connexion en permanence avec Dieu. Non seulement parce qu'il en est digne, mais aussi parce que c'est bon pour moi, parce que ça me met en connexion avec Dieu, et parce que ça peut se refléter autour de moi pour bénir les personnes qui m'entourent et leur apporter espoir. Que nous dit la Bible sur la louange. Si nous lisons le psaume 150, par exemple, nous sommes invités à glorifier Dieu avec des instruments, luth, harpe, tambourin, etc. Et bon nombre de passages nous invitent à la louange par les chants, la musique, la danse et la prière. Mais au-delà de toutes les formes extérieures de louange, la louange véritable, on va dire, elle est reconnaissable par les points suivants. Et se limite surtout pas au chant. Il y a quatre points. Le premier, c'est qu'elle se focalise sur le Seigneur. Psaume 145, versets 1 à 21, par exemple. Nous rendons hommage à sa personne. Et nous nous réjouissons de ses œuvres, en nous approchant de lui avec reconnaissance. Notre Dieu est à la fois la source et le destinataire de notre louange. Tous les jours, acclamons-le pour lui-même ainsi que pour ses merveilles. Le deuxième point, c'est qu'elle jaillit du cœur. Psaume 9 et psaume 138. Même si notre être entier peut l'exalter, le Seigneur considère avant tout notre attitude intérieure. Il reproche à Israël sa superficialité, son hypocrisie dans Ésaïe 29, verset 13. « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est loin de moi. » À l'opposé, imitons les fils de Corée en laissant échapper de notre cœur un chant d'amour à la gloire de notre roi. Psaume 45, verset 2. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et cela nous concerne tous les jours, car Dieu ne nous regarde pas que le dimanche. Troisième point, elle perdure peu importe les circonstances. Psaume 34, 145, psaume 146. David réalise que la louange revient de droit au Seigneur. Il est bien décidé à élever Dieu tous les jours de sa vie. Poursuivi par Saül, il lui crie sa détresse et sa plainte se transforme en chant de triomphe. Psaume 57, versets 1 à 11. L'adoration est la seule activité qui commence ici-bas et se poursuit jusque dans l'éternité. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins, mais comme Paul et Silas en prison, acte 16, versets 23 à 25, sachons aussi redoubler d'ardeur pour célébrer les mérites de notre Dieu bienveillant, malgré les circonstances parfois difficiles. Et quatrième et dernier point, elle est contagieuse. Psaume 34, versets 2 à 3 et psaume 78. Quand on lit ces passages, le psalmiste y met parfois tellement d'entrain que son chant joyeux se transforme en une invitation. Psaume 34, verset 3, « Venez, proclamez avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. » Notre louange est-elle communicative comme celle de Myriam dans Exode 15, versets 20 à 21, où elle prend son tambourin et elle entraîne tout le peuple de Dieu à le louer. Questions et réponses rapides. Quand le louer? Psaume 30, verset 13, toujours. Ou à jamais, si vous préférez. Psaume 61, verset 9, sans cesse. Psaume 146, verset 2, tant que je vivrai. Où le louer? Dans son saint temple, psaume 138, verset 2, parmi les peuples, psaume 57, verset 10. Déjà dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de moment ni de lieu particulier pour la louange du psalmiste. Et si nous pensons que le temple était l'endroit le plus approprié, la nouvelle alliance en Jésus-Christ fait de chacun de nous, individuellement, un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Notre vie est un temple toujours disponible pour y faire monter notre louange, où que nous soyons. De plus, les chrétiens réunis forment ensemble aussi le temple du Saint-Esprit, Éphésiens 2, verset 22, où il est question de la construction qui s'élève en appui sur Jésus, la pierre principale. Donc, toutes nos rencontres, les chrétiens, devraient être louanges à Dieu. Les réunions en semaine, même les assemblées générales, je ne sais pas comment elles se passent chez vous, nous on en a une bientôt à la fin du mois, voilà quoi. Toutes nos rencontres devraient être une louange à Dieu. Alors avec ça, est-ce qu'il faut encore organiser des moments de louange au culte ou des soirées de louange? Je ne sais pas si vous en faites. Mais je pense que oui, parce que nous sommes en chemin et que nous devons nous aider et nous encourager les uns les autres pour être en louange, pour être des louangeurs tout le temps. C'est notamment le rôle des conducteurs de louange de nous conduire dans une connexion profonde de reconnaissance et d'adoration, mais ça ne s'arrête pas à 10h45 le dimanche matin. Ne faut-il pas éliminer de notre vie tout ce qui attriste le Saint-Esprit et pollue notre être au point de ne plus penser ou de ne plus vouloir louer Dieu? Autrement dit, dans notre vie de tous les jours, écoutons des choses qui nous encouragent à la louange et refusons ce qui tue la louange. Si la louange est un état d'esprit quotidien, nos rassemblements seront tout naturellement des concerts de louange et à plus forte raison le dimanche matin, dont c'est un des buts essentiels. Je crois que si on arrivait le dimanche matin déjà plein de louanges et qu'on n'attend pas ce moment-là pour se reconcentrer sur Dieu dans la louange, c'est là qu'on va vivre des temps encore plus forts et encourager et porter celles et ceux qui traversent plus de difficultés et qui n'arrivent pas à venir avec déjà un esprit de louange. Si on vit quotidiennement avec Dieu dans la louange, de qui il est, de ce qu'il fait, nous allons nous bénir. Et nous allons nous bénir nous, en plus de lui, bénir Dieu. Alors bien sûr, c'est pas facile à dire et puis pas évident à vivre tous les jours. Mais si on prend le temps d'y réfléchir un peu dans nos vies à 100 à l'heure, et moi je dois être le pire là-dedans, qu'on s'arrête pour contempler Dieu, ça peut changer beaucoup de choses. Alors je dis pas qu'on doit tous acheter une batterie puis se mettre au ska et balancer du gros son bien lourd ou... Mais savoir s'arrêter devant une fleur, reconnaître que c'est la création de Dieu et simplement le louer pour qui il est. Savoir s'arrêter un moment et me dire, là je reconnais que c'est toi qui as agi. Là je reconnais que tu es là. Ah puis je vois quelqu'un en face de moi qui semble être dans le besoin. Bah, je vais te louer Seigneur et puis ça va me... être communicatif pour cette personne-là, peut-être pour lui partager quelque chose que je reçois de toi. J'aimerais terminer encore par une citation, un texte dont j'ai corrigé la traduction. C'est un extrait de Kim Walker Smith, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une leader de louange de l'église Bethel avec Jesus Culture à Redding en Californie. Elle dit « La louange, ce n'est pas la musique. La louange, ce ne sont pas des chants. Ce n'est pas les danses, les peintures, etc. Ça, ce sont des expressions de louange. La louange ne peut pas être confinée dans une boîte. La louange, c'est simplement ce qui nous connecte à lui. Voilà ce que c'est. Et c'est uniquement ça. Voilà ce que je souhaite voir arriver dans l'église quand les gens qui louent. Je suis en train de parler de tout le monde. Je ne suis pas en train de parler de l'équipe de louange seulement. Je parle bien de tout le monde. L'église, les adorateurs. Pendant la semaine, il y a le boulot, les enfants, la famille, les amis, des bons jours, des mauvais jours, etc. Il se passe plein de choses. Et après, on vient à l'église le dimanche et on dit « Pasteur, équipe de louange, reconnectez-moi ». Imaginez ce que serait la louange si chaque membre de l'église arrivait déjà connecté. Déjà prêt en se disant « Je n'ai pas besoin d'un chant pour me reconnecter ». Je n'ai pas besoin qu'on m'aide à me réveiller parce que je me suis battu toute la semaine pour garder cette connexion. Parce que c'est la chose la plus importante dans ma vie. Comme la louange serait extraordinaire. Comme on pourrait aller plus en profondeur. Voilà ce qui devrait nous arriver. À n'importe quel moment, je peux être au supermarché, être en train de faire la queue et d'un coup j'arrête tout. Et je dois pouvoir louer Jésus. Avec toute la passion qui est en moi parce que cette connexion est vivante. Elle est vivante et je suis connecté. Du coup, je n'ai pas à chercher une chanson ici ou là ou à demander « Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un dans le supermarché qui pourrait chanter un chant pour moi là tout de suite car je voudrais louer Dieu et j'ai besoin de vous pour me réveiller d'abord ?» Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Fin de traduction. C'est un peu avec mes mots aussi. Alors, je reviens à mon petit quiz du début. Peut-être ça vous a hérissé les poils d'entendre des chansons comme ça. Dans toutes les chansons, les paroles étaient les mêmes. La louange est donc similaire. Tous ces groupes, toutes ces personnes adoraient le Dieu étonnant, puissant, awesome God. La louange est donc similaire, même si la forme change beaucoup. Le ska n'est peut-être pas au goût de tout le monde. Pour moi, personnellement, c'est un groupe qui m'a touché dans ma jeunesse. Cette musique, cette louange, c'était quelque chose qui me refilait la pêche, et plus d'une fois dans ma vie de jeune chrétien. Je crois qu'il est important de reconnaître qu'on n'a pas tous la même sensibilité ou la même manière de louer. Mais nous pouvons nous respecter les uns les autres. Quand quelqu'un préfère des chants rythmés parce que cela l'entraîne plus facilement à louer Dieu, tant mieux. Je sais que mon père, que tu as connu, il était fan de rock et à l'époque, il a quelques années plus que moi, vous en doutez, quand il écoutait du rock et qu'on disait que t'es un chrétien, le rock, c'était un peu dérangeant. Mais lui, ça l'amenait au Seigneur. Oui, quand quelqu'un préfère des chants rythmés, c'est parce que ça l'entraîne lui plus facilement à louer Dieu, bah, tant mieux. Et puis pour d'autres, ils ont besoin de plus de calme, peut-être le chant méditatif sans parole, et ça les emmène à louer Dieu et adorer Dieu. Mais, génial, tant mieux. Chouette. D'autres adorateurs s'y retrouveront encore avec un autre style, peut-être en faisant de la peinture. J'en sais rien. Génial. Au fond, ce qui est important, c'est notre cœur d'adorateur. Peu importe la forme et la connexion avec notre Dieu qui nous aime tellement. Et puis c'est le verset que tu as lu, de 1 Samuel, du regard du cœur. La Bible nous met tellement en garde pour rester vigilants, pour rester fidèles, pour tenir bon contre les ruses du diable. On pourrait faire toute une prédication sur son statut d'ange de lumière, louangeur déchu, mais je vais laisser ça pour d'autres occasions. Soyons connectés à Dieu, plutôt qu'à Internet par exemple, ou à une image qu'on veut donner de soi. Dieu regarde le fond de notre cœur, plus que la note qui n'était peut-être pas tout à fait juste quand on a chanté ou loué, ou joué. Et je termine avec ce point qui me paraît essentiel, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je suis persuadé que Dieu n'attend pas de nous que nous nous forcions à être de bons adorateurs. C'est pas en se disant « je dois être un adorateur, punaise, je dois faire mieux, je dois... » Non. Et cette conviction, elle est même plus large que ça. Je m'explique. Depuis tout petit, on me dit, on m'a appris que pour être un bon chrétien, il faut faire ci, il faut faire ça. Pour être sauvé, pour pas aller en enfer, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai compris aujourd'hui qu'être chrétien, c'est pas suivre un ensemble de règles bien catéchisées. La Bible, pour moi, c'est pas un ensemble de règles. C'est une histoire d'amour. Celle que Dieu souhaite vivre avec chacun de nous. Elle est un guide qui nous montre que Dieu nous aime plus que tout et qu'il souhaite vivre en relation avec ses créatures. Et les règles ne sont plus des obligations, mais elles deviennent un résultat de notre relation avec Dieu. Faire les bons choix, prier, louer, adorer, ça devient des conséquences d'une relation toujours plus profonde et intime avec Dieu. Et je suis convaincu que c'est en soignant cette relation avec Jésus que notre vie sera transformée, abondante, riche, et non pas comme une obligation, mais par un choix d'amour. Soyez encouragés à vivre une relation toujours plus profonde avec Dieu, et à lui la louange pour toujours. Amen. Amen.